Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le thème de la journée proposée par le service diocésain de la pastorale de la santé le 16 octobre 2019 à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Voici l'intervention du père Benoît-Marie Solaberrieta, bénédictin.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-il ton Dieu? Le thème de cette journée est clairement annoncé par ces deux phrases qui ne sont pas anodines. La première est bien sûr assez connue puisqu'elle est tirée du psaume 21, verset 2, verset que le Christ crie au moment dramatique de sa mort sur la croix. Et nous entendons toujours ce passage chaque année au moment de la Semaine Sainte. La deuxième phrase est également un cri de révolte d'un déporté agnostique des camps de la mort, adressé à un prêtre alors qu'ils sont, lui-même déportés, qu'ils sont les témoins horrifiés avec des dizaines d'autres de la réaction d'un jeune homme pendu par les autorités nazies, mais qui ont mal placé la corde et qui meurent non pas sur le coup, mais dans d'affreuses souffrances. Alors l'agnostique dit au prêtre, « Où est-il ton Dieu ?» Et le prêtre de répondre en désignant le jeune homme agonisant d'étouffement, « Il est là, c'est lui. » Chers amis, avant d'aller plus loin dans mon propos, il me faut être honnête à votre égard. Lorsqu'il y a un an et demi, M. Marc Renoux m'a demandé d'intervenir sur le sujet de la souffrance. J'ai immédiatement donné une réponse négative. En effet, j'ai toujours refusé de parler de la souffrance pour la bonne et simple raison que jusqu'à présent, je n'ai jamais réellement souffert dans ma vie. Et je garde en mémoire la réflexion pathétique du cardinal Pierre Veuillot, qui, dans l'avion qui le ramenait en toute urgence de Lourdes, où il participait à l'Assemblée des évêques, c'était en novembre 67, qui le ramenait à Paris, s'écria à son entourage, son secrétaire et infirmier, « Dans ma vie, j'ai donné de nombreuses conférences sur la maladie, la souffrance. Dites à mes prêtres de ne jamais parler de la souffrance. La réalité est infiniment plus difficile et douloureuse que tout ce que l'on peut dire. » À mon refus, M. Renoux ajouta immédiatement, « C'est bien pour cette raison que j'insiste pour que vous interveniez. » J'ai donc eu finalement la faiblesse d'accepter. Cependant, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous essayer de vous partager est le fruit de lectures, de nombreuses rencontres et interviews depuis plus d'un an maintenant auprès de personnes diverses, ayant vécu la maladie et la souffrance, auprès de personnes ayant contact avec des malades, médecins, personnel soignant, etc., auprès de personnes ayant côtoyé ou qui côtoient des malades et des souffrants de très près dans leur entourage. C'est également le fruit d'une réflexion, oui, théologique, à partir, et j'insiste, de situations concrètes. Le fruit enfin, et surtout, d'une réflexion personnelle menée à la lumière de la parole de Dieu. Bref, d'avance. Je tiens donc à présenter toutes mes excuses à ceux et celles qui, peut-être, au cours de cette intervention, seront provoqués, choqués, voire blessés par tel ou tel de mes propos. Ce n'est vraiment pas mon intention. Grand A, un certain nombre de constats. Avouons-le aujourd'hui, tout dans notre société met en avant la notion de plaisir, la notion et la réalité. La souffrance, tant que faire se peut, est estompée. Et quand elle survient, on lui cherche des boucs émissaires et nous tournons interrogateurs vers la science ou la technologie. Ne sont-elles pas là pour apporter réponse à tout? Pourtant, La souffrance reste là avec sa part d'insupportable, de mystère et d'absurde. Comment l'assumer et la vivre chrétiennement? Une question très difficile. De multiples façons de ressentir la souffrance existent, et je ne suis pas exhaustif. Il suffit de regarder autour de soi. Il y a tout d'abord la souffrance physique, certes, les maladies qui n'en finissent pas et empoisonnent la vie quotidienne, celles qui présentent une grave menace, un cancer, des problèmes cardiaques, etc. La vieillesse qui pèse sur toute chose et mène petit à petit à des délabrements. Et puis les douleurs intenses sur lesquelles les médecins sont totalement impuissants. Mais la souffrance psychique existe aussi, souvent vécue comme honteuse. Des milliers de personnes sont aux prises avec des dépressions qui n'en finissent pas. Immense sentiment de gâchis. D'autres ressentent des blessures psychiques infantiles revenant sans cesse. Certaines se battent avec un problème d'alcoolisme ou avec des continuelles angoisses. De nombreuses personnes sont tenaillées par des difficultés psychosexuelles et relationnelles. Il y a aussi celles qui éprouvent le décès d'un proche d'une façon très douloureuse, parents, conjoints, enfants. Comment ne pas penser également à ces souffrances de personnes spectatrices d'elles-mêmes, avec une espèce d'indifférente froideur, comme si elles ne comprenaient plus vraiment? Enfin, songeons aux souffrances extrêmes de ceux et celles qui se sentent abandonnés de tous. Sont encore présentes des souffrances d'origine sociale, chômage, incompréhension de l'entourage dans le fait d'avoir perdu son épouse ou son mari, et puis l'injustice subie parce qu'on lutte en faveur de la justice dans son milieu de travail. Enfin, il y a les souffrances spirituelles, les crises de la foi. Une foi ébranlée à l'occasion d'un moment difficile ou dramatique, une foi remise en cause par la lassitude extrême engendrée par un incessant combat pour rétablir l'espérance. Et puis il faut encore inclure ces sentiments de culpabilité qui nous habitent parfois et que nous avons du mal à dépasser. Sans compter les multiples difficultés de la vie ordinaire, relationnelle, au quotidien. Bref, chacun a vécu ou vit des telles souffrances, parfois au vu et au su de tout le monde, et parfois, ce qui est encore plus douloureux, dans l'anonymat, dans le secret. Premièrement, face à tant de souffrances, que se passe-t-il? Nous éprouvons tout d'abord le sentiment d'une espèce d'étrangeté à soi-même. Je ne me comprends plus. Je suis autre de ce que j'étais avant de souffrir. C'est comme si, à la limite, j'étais habité par quelqu'un d'autre. Chers amis, la souffrance, quand elle est forte, nous possède, nous viole. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes et c'est très dur. Une solitude extrême s'empare aussi de nous. Qui peut me rejoindre dans ma souffrance? Toutes les paroles qui me sont adressées sonnent plus ou moins faux. Quelque chose est au-delà des mots, au-delà des langages, et je me sens seul. Qui peut comprendre ce qu'a d'unique au monde mon drame intérieur, mon épreuve physique, psychique? Alors existe quelque chose, quelquefois, pardon, la tentation de m'enfermer dans cette solitude. Pourtant, dans le même mouvement, un coin de moi-même désirerait communiquer. Je suis pris dans un va-et-vient entre ces deux envies, m'extraire et dialoguer. Enfin, surtout, quand on souffre très fort, cela nous paraît bête et absurde, comme disaient les philosophes. C'est idiot ce qui m'arrive, cela n'a pas de sens. Ce qui faisait ma joie de vivre, mon corps, ma famille, mes enfants, ma foi chrétienne, C'est justement cela qui, aujourd'hui, me désarçonne. Toutes mes évidences faciles, comme quoi, comme l'amour, la foi existe, voilà qu'elles tombent. Alors, vers quoi et vers qui me retourner pour reprendre pied? C'est le désarroi. Si je suis chrétien, je me mets à essayer de trouver le sens qui m'arrive, de ce qui m'arrive. J'écoute ce que l'on dit de la souffrance autour de moi, notamment les bien portants qui, quelquefois, me sont presque une insulte parce qu'ils éclatent de santé, de joie de vivre. Des gens qui ont souvent des tas d'explications de la souffrance. Des théologiens, des prêtres, des amis bien intentionnés qui ne sont pas en reste de beaux discours et de belles théories. Je les écoute honnêtement, mais c'est la plupart du temps pour entendre des propos de valeur bien inégale. Deuxièmement, de beaux discours et de belles théories. C'est une citation. Tu sais, tu souffres, mais dis-toi bien que Dieu éprouve spécialement ceux qu'il aime. C'est un signe de son amour privilégié pour toi. Chers amis, une telle expression, cette première expression, souvent entendue dans les milieux chrétiens. Bien sûr, nous le savons, si nous sommes un bon père, une bonne mère de famille ou bien un bon éducateur, pour faire grandir les enfants, il faut parfois les frustrer, leur imposer des moments durs, ne serait-ce que pour cultiver leur volonté, pour éduquer leurs désirs. Mais nous savons également que nous ne devons jamais imposer à nos enfants arbitrairement des souffrances qui les écrasent, qui les mutilent, qui brisent leur goût de vivre et leurs relations. Alors, ce genre de réflexion selon lesquelles Dieu nous enverrait ses souffrances parce qu'il nous aime paraît insupportable. Comme si être préféré de Dieu, c'était devenir mutilé de son goût de vivre. Où est la parole du Christ, celle que je vais citer? Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vous donne ma joie nul ne pourra vous la ravir. Non, ce genre de théorie n'est certainement pas conforme à un vrai christianisme. Nous entendons également d'autres propos du type « Tu souffres, mais tu sais, réjouis-toi parce que ta souffrance sert à sauver le monde. Ta souffrance est rédemptrice. » Dans un premier temps, nous pouvons nous accrocher à ce genre de conviction, car au moins, elle nous montre que la souffrance, qui apparemment ne sert à rien, si ce n'est qu'à faire désespérer, est utile à quelqu'un. Seulement, assez vite, là surgit le doute. En effet, la souffrance, en tant qu'elle isole, déprime, brise les forces de vie, pèse parfois lourdement sur notre entourage, et dans les cas les plus forts, nous fait même parfois désirer d'en finir avec nos jours. Bref, la souffrance déshumanise. Alors comment pouvons-nous dire que ce qui déshumanise est libérateur, est en train de sauver le monde et finalement est rédempteur? Le cancer de quelqu'un contribuerait-il à libérer les autres? La souffrance d'un enfant innocent pourrait-elle libératrice pour quelqu'un? Il y a, avouons-le, quelque chose d'horrible à dire de pareils propos. Décidément, cette formule « la souffrance est rédemptrice » me paraît pour le moins piégée, voire lourde de certaines erreurs. Et au bout d'un moment, je peux comprendre mes amis incroyants qui m'ont dit « Mais comment peux-tu penser que la souffrance rachète le monde alors qu'elle t'écrase tant ?» Les prêtres et les autres racontent n'importe quoi. Fin de citation. L'autre discours entendu est « Tu souffres, eh bien alors offre tes souffrances à Dieu. » Certes, nous voyons bien l'attitude vraie qui cherche à s'exprimer là. Offrir sa vie à Dieu, quand bien même elle est défigurée par la souffrance. Mais prise à la lettre, cette formule « offre tes souffrances se réfère à un Dieu pour le moins curieux. En effet, la souffrance, c'est quoi? C'est le mal. Alors quel serait ce Dieu, quel serait ce Père dont le plaisir serait de recevoir en cadeau ce qui est mal, ce qui est déshumanisant, ce qui abîme, voire mutile? Ne serait-ce pas un Dieu pervers? Ainsi, quand nous souffrons, il n'est déjà pas facile de trouver le sens de notre souffrance, et voilà que lorsque nous y essayons, nous trouvons sur notre chemin des propos de certains chrétiens et d'autres qui nous paraissent en partie erronés, du moins pleins de pièges. Des paroles qui finalement ne facilitent pas la tâche de reconquête de moi-même que j'essaie de vivre au cœur de l'épreuve. Grand B, quelques repères. Et un premier point, le titre vaut ce qu'il vaut, se méfier des raccourcis de langage. Vous savez, les raccourcis de langage, nous en faisons continuellement. Eh bien, dans le domaine de la souffrance, notre psychisme nous joue des tours. Il est parfois difficile de déjouer les pièges tendus par les approximations de langage. Dire que le Christ nous rachète par ses souffrances, c'est un énorme raccourci. Ce qu'il faudrait dire, c'est que le Christ nous sauve, nous rachète, par toute sa vie faite d'amour passionné pour l'homme, d'espérance contre toute espérance, de foi radicale en son Père et dans les hommes. Et cela, même quand il a été amené à souffrir terriblement. Soyons clairs, ce qui rachète, ce n'est pas la souffrance du Christ en elle-même. C'est qu'au cœur de ses souffrances, Jésus a été un homme pleinement aimant, croyant et espérant. Il faut toujours tenir à cette vérité. Ce qui rachète, c'est seulement ce qui construit et libère l'être humain. Or, la souffrance, en tant que telle, ne le fait pas. Elle ne peut donc racheter. En revanche, ce qui va le faire, c'est la façon dont chacune, va essayer d'humaniser sa vie au cœur de ses souffrances. Et cela grâce à Dieu et avec Dieu. De même, l'expression « offre tes souffrances » est un énorme raccourci. Puisque la souffrance en elle-même détruit, le plaisir, entre guillemets plaisir, de Dieu ne saurait être de recevoir ce qui abîme. En revanche, la joie de Dieu est de recevoir ce qui construit l'homme et est d'accueillir ce que l'amour du Christ permet à l'homme de bâtir malgré les forces de désunion que représente la souffrance. Ce que Dieu aime à recevoir, c'est la foi, l'espérance, l'amour, l'humilité, la patience au cœur des souffrances. Voilà vraiment ce qui construit l'être humain, permet à la personne qui souffre de continuer à entrer en relation. Chers amis, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être contre les raccourcis de langage, mais qu'il faut être au clair avec ceux qu'ils représentent. Sinon, ils nous font dévier de la vraie foi et risquent de nous faire imaginer un Dieu pervers. Il faut avoir par exemple conscience que quand nous disons « Seigneur, je t'offre mes souffrances », en fait, nous cherchons à dire autre chose. « Seigneur, je t'offre le don que tu me fais de continuer à accueillir la foi, l'espérance et l'amour que toi, Dieu, tu vis envers moi. » Voici en effet une des plus grandes nouvelles de la foi chrétienne. Dieu croit en chacun de nous. Dieu croit en moi. Nous parlons toujours, et c'est vrai, de la foi de l'homme en Dieu, mais Dieu aussi croit en l'homme. Et depuis un certain Noël, où le Fils de Dieu, c'était homme, pour que l'homme ait accès à la vie de Dieu. Dieu espère en chacun de nous. Dieu nous aime chacun de manière unique. Et ce qui libère, c'est qu'au cœur de la souffrance, c'est de reconnaître que Dieu nous aime, Dieu m'aime, et de développer ce don qu'il me fait par son Fils Jésus-Christ. Deuxièmement, ne pas chercher le sens de la souffrance. Il s'agit en fait de chercher plutôt à rendre notre vie plus humaine, plus chrétienne, plus évangélique, malgré et avec la souffrance. À entendre certains chrétiens, nous pourrions croire que la foi donne le sens de la souffrance. Il suffirait d'ouvrir la Bible, de consulter la doctrine de l'Église ou encore d'écouter la voix intérieure de Dieu. Or, cette façon de penser est erronée et ne peut que nous enfermer dans des impasses. La souffrance est une expérience de l'absurde. Nous n'y comprenons rien. La foi chrétienne nous permet de ne pas nous laisser fasciner par ces sentiments de stupidité et d'absurdité. La foi chrétienne donne la force, ou peut donner la force, de comprendre que Dieu est de mon côté, mieux à mes côtés, pour conduire avec courage le combat destiné à donner sens à ma vie. C'est alors qu'elle est précisément parcourue de trous noirs et de non-sens, mon existence. La foi me donne d'effectuer un véritable travail sur moi-même et avec les autres. Quand je dis « me donne », je pourrais ajouter « peut me donner ». Un travail pas simplement de deuil, comme disent les psychologues d'aujourd'hui, mais un travail de Pâques, où il s'agit de quitter une certaine façon d'être dans une vie complètement bousculée par la souffrance pour, petit à petit, trouver une autre manière d'assumer le réel. Nous devinons donc qu'il est très important pour un chrétien de se tourner vers Dieu pour que sa force, la force de Dieu, se déploie dans sa faiblesse et qu'il l'aide à mener le bon combat. Il est aussi fondamental de se tourner vers Dieu fait homme, Jésus de Nazareth. Il a lui-même dû se bagarrer, lutter contre l'absurdité et contre la souffrance. Important encore de chercher en quoi il a souffert et comment il a vécu sa souffrance. C'est mon troisième point, revenir à l'expérience de Jésus de Nazareth. Pour éviter de s'égarer dans la réflexion sur la souffrance et une réflexion éthérée, il faut toujours revenir à l'expérience de Jésus de Nazareth. C'est notre référence, pas que pour la souffrance, c'est notre référence. Nous sommes chrétiens, disciples du Christ. Nous croyons au Dieu de Jésus-Christ. Les théologiens nous jouent parfois des tours, ainsi que notre psychisme. Ils nous présentent des images de Dieu bizarres. Une seule façon de savoir qui est Dieu, c'est de revenir à la parole de Jésus, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Jean 19, 14. Si nous voulons savoir comment Dieu se comporte vis-à-vis de ceux qui souffrent, si nous voulons savoir comment Dieu a vécu lui-même la souffrance dans son humanité, nous devons revenir à Jésus. Alors seulement, nous disposerons d'un critère parfaitement sûr pour tenter de christianiser, d'humaniser notre souffrance. Troisième grand point, Jésus et la souffrance. Alors, premièrement, Jésus a-t-il souffert? Contrairement à ce que prétend une certaine spiritualité déviante, les évangiles ne présentent jamais Jésus comme un champion de la souffrance. Ils ne sont pas remplis de descriptions des souffrances du Christ. Ils sont même fort discrets à ce sujet. Le Christ a-t-il subi des souffrances d'origine matérielle? Beaucoup de nos contemporains ont du mal à boucler les fins de mois, ont des logements mauvais, précaires, des difficultés pour l'avenir en raison d'un emploi fragile ou même du chômage qui menace. Eh bien, Jésus n'a pas éprouvé de telles souffrances. Il y a bien sûr dans l'évangile la parole suivante, Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Luc 9, 58. Mais c'est plutôt une parole pour nous faire comprendre qu'il y avait en Jésus une disponibilité absolue, exigée aussi à ses disciples. En fait, Jésus a été pendant 30 ans travailleur dans un petit village à Nazareth, où il semble qu'il n'ait manqué de rien. Puis dans sa vie publique, il était aidé par des gens plutôt riches, plutôt aisés. Jésus, cependant, a souffert sur le plan social. Il a dû affronter, à plusieurs reprises, la montée de la haine. Plusieurs fois, il a été en péril de mort. On a voulu le lapider, le jeter du haut d'une falaise. Et finalement, d'ailleurs, cela va se terminer sur la croix. Mais c'est surtout du côté des souffrances d'origine spirituelle qu'il faut chercher celles qui ont accablé Jésus. Tout d'abord, la souffrance pour quelqu'un qui est la vérité faite chair d'être incompris des siens. Juste après la scène, quelques heures avant la mort du Christ, alors que Jésus ne cesse de donner des exemples d'humilité, ne cesse de dire qu'il est là pour servir et non pas pour être servi, ses propres disciples sont en train de se demander qui est le plus grand parmi eux. C'est dur pour la vérité faite chair de voir que les hommes ont tant d'incompréhension du message de Dieu son Père, ses propres apôtres, ce qu'il a choisi. C'est dur surtout d'être rejeté par ceux qu'il est venu libérer et sauver, le peuple d'Israël. Le Fils de Dieu est venu dans le monde et les siens l'ont rejeté. Il est terrible de subir la plus grande des exclusions qui soit, celle des condamnés à mort. Il n'y a pas de pire exclusion que celle-là. Un condamné, c'est quelqu'un à qui l'on dit « On ne croit plus en toi, on croit si peu en toi que désormais on t'interdit de vivre, on te tue. » Voilà l'exclusion qu'a vécu Jésus. Quelle souffrance intérieure de se sentir ainsi rejeté alors qu'il est le sauveur du monde. Cette exclusion va si loin qu'il est non seulement rejeté par les autorités religieuses et civiles, Hérode et les autres, mais qu'il est trahi par Judas, l'un de ceux qu'il avait appelé. Il est même renié par Simon-Pierre, qu'il avait choisi comme pierre pour fonder son église. Tous le lâchent, sauf sa mère, sauf Saint Jean et quelques femmes. Nous pouvons imaginer le sentiment de gâchis qui a pu envahir le Christ de se sentir ainsi abandonné, car vérité faite chair, mais vrai homme, et vrai Dieu, mais vrai homme. Puis l'Évangile nous décrit une scène terrible où nous voyons Jésus pris de sueur, de sang et d'eau, signe d'une angoisse massive qui monte. Il s'agit, on connaît bien, la scène de Gethsémani où Jésus est seul tandis que ses disciples dorment. Angoisse devant la torture qu'il pressent, devant le supplice incroyablement douloureux de la croix, angoisse devant la mort et surtout devant l'immense sentiment d'injustice, lui, l'innocent parfait, et rejeté. Il n'y a pas plus de grande injustice que celle-là. Enfin, la souffrance spirituelle du Christ va culminer dans le sentiment que le Père, son Père lui-même, est en train de le lâcher. Être abandonné par le Père, oui, celui-ci semble se taire pendant les 3 jours de la Passion, et tout cela culmine dans un grand cri de la part du Christ. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers amis, Jésus n'est pas un recordman de la souffrance physique, psychique, sociale, mais il a, comme beaucoup d'autres, et peut-être beaucoup plus que d'autres, rejoint le centre ou le point commun de toute souffrance, à savoir le sentiment d'injustice, de stupidité, d'absurdité, d'abandon. le Christ a été vidé de ces évidences spontanées selon lesquelles l'homme est bon en son fond malgré le péché, selon lesquelles Dieu est toujours là, prêt à secourir. C'est pourquoi la façon dont le Christ a su, au cœur de cette détresse, rejoindre l'homme et rejoindre son Père doit sans cesse être contemplée par nous. Cela va nous aider à donner sens à notre vie dans la souffrance. Deuxième point, comment Jésus a-t-il vécu la souffrance? Jésus n'a pas prononcé de grands discours sur la souffrance. Il a des attitudes bien communes, bien humaines. Il ne va pas au-devant des souffrances. Nous oublions trop souvent un verset de l'Évangile selon saint Jean. C'est Jean 8, 1 et 10. Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. Et un peu plus loin, donc verset 10, lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. Jésus fait comme les résistants durant la guerre 39-45, pardon mon expression, il se planque, il ne cherche pas des occasions pour souffrir, et en cela il a bien raison. Quand tout à coup Jésus sent que la souffrance est inéluctable, il a des réactions bien humaines, comme chacun d'entre vous. Il est pris d'angoisse au jardin des Oliviers, à Gethsémani. Il n'a qu'un seul désir, que la souffrance s'éloigne. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Finalement, quand l'horrible de la croix arrive, les évangélistes nous rapportent sept paroles de Jésus, paroles à méditer sans cesse quand on est amené à souffrir. Troisièmement, des paroles qui ouvrent l'avenir de l'autre. Dieu, en l'homme Jésus sur la croix, est un donneur d'avenir par des paroles d'amour. Tout d'abord, à propos de ces bourreaux, il pourrait dire « Père, venge-toi sur ceux qui me font mal ». Au contraire, il ouvre l'avenir à ses tortionnaires « Père, pardonne-leur ». Bien plus, il cherche à les excuser. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, il se tourne vers le larron qui dit « Le bon larron, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal ». Et Jésus lui répond, « Je crois encore en toi, tu as un avenir, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et puis enfin, il y a les personnes qui sont vraiment fidèles au pied de la croix, notamment sa mère, Marie, et le disciple bien-aimé, Jean. Alors Jésus qui, dans la souffrance, pourrait ne se centrer que sur lui-même, a une attention particulière pour sa mère. Et pour saint Jean, et il leur ouvre encore leur avenir. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Des paroles d'amour. Quatrièmement, des paroles de vérité également. À travers elles, on perçoit que Jésus ne fait pas le malin, entre guillemets. Il ne souffre pas de façon stoïque. Il a des paroles de vérité humaine sans faux semblant religieux. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis cet immense cri, lui qui avait dit « De mon cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Cet immense cri, décevant pour le bon croyant bien pensant, « J'ai soif. » Le Fils de Dieu, source d'eau vive, qui crie sa soif. Parole de vérité humaine. Cinquièmement, une parole de foi. Quand tout s'effondre et que Jésus a le sentiment que Dieu lui-même l'abandonne, il a cette foi incroyablement dépouillée qui lui permet de dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Enfin, une parole d'espérance contre toute espérance. alors que le Christ pourrait avoir l'impression que tout est raté. Venu sauver le monde, cela se termine sur la croix, où il est honni de tous. Il a encore le courage et l'espérance de dire « Tout est accompli ». C'est-à-dire, l'amour sauveur de Dieu est allé jusqu'au bout de l'amour et maintenant, il peut porter ses fruits. Chers amis, tout sonne juste dans la façon qu'a Jésus de se situer devant la souffrance. Il se contente de laisser transparaître une profonde humanité. La mort de Jésus n'est pas belle, elle n'a rien de glorieux. Une mort toute simple où l'on crie sa détresse, où l'on tente d'exprimer sa foi et son espérance. Au moment où le Christ crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» nous pourrions dire « voilà, il ne croit plus ». C'est précisément à ce moment qu'un centurion romain non-croyant s'écrie « vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Quand nous allons tout au bout de notre vérité humaine, c'est alors que Dieu se manifeste en nous. C'est quand nous fuyons les faux-semblants que nous essayons douloureusement de construire le combat de l'espérance, du dépouillement et de la foi, qu'alors Dieu se manifeste. Oui, au moment où nous avons toute raison de ne plus croire, c'est justement à ce moment-là que le centurion choisit de faire un acte de foi. Extraordinaire leçon d'évangile. Grandet, comment humaniser et évangéliser la souffrance? Chers amis, en fait, la souffrance n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des personnes très différentes qui vivent des souffrances très différentes. À la limite, chacun a une façon unique au monde de subir la souffrance et de l'assumer. Premièrement, quand on souffre intensément. Beaucoup ont eu des moments de souffrance intense, dans un hôpital, par exemple. Quand on vit de telles souffrances physiques et psychiques, on est réduit à l'affolement de la bête. On est un pur cri devant la détresse, souhaitant que cela finisse au plus tôt, quel que soit le moyen. Ce n'est certainement pas dans ces moments-là que l'on prend le temps de poser des questions, de penser, de parler, ni même de prier. On en est bien incapable. Ce n'est que larmes, gémissements, cris, silence, plein de mort. Ce n'est qu'après, une fois que la souffrance brutale s'éloigne, que peuvent venir surgir des réflexions, du moins si l'on n'est pas trop affaibli. Dans ces moments de souffrance très fortes, la douleur, la souffrance psychique sont vécues comme quelque chose d'étranger qui rentre par effraction dans ma vie. Et après coup, je me dis, mais suis-je donc si fragile qu'en un instant, toutes mes évidences se brisent, que j'ai même envie de quitter la vie pour que cela cesse? C'est un constat extraordinaire de ma condition de créature. Et en ces moments-là, plus de moyens de se prendre pour le bon Dieu. Ce que je prenais pour de la sainteté, parce que j'étais bien équilibré, je m'aperçois que ce n'était que de la bonne santé. Et puis, quelque chose s'installe au ventre, la peur que cette douleur recommence. À tel point que cela me fait occulter certains symptômes maladifs et refuser des examens médicaux qui seraient nécessaires. Dans ces moments-là, la quête de vérité devient elle-même difficile. C'est difficile d'humaniser et de christianiser tout cela, reconnaissons-le. Mais les personnes qui ont vécu de telles situations en sortent toujours quand elles ont bien reprises devant Dieu et devant elles-mêmes, elles en sortent avec un souci plus grand de ceux et celles qui souffrent. Le fait d'avoir souffert violemment rend petit et humble devant ceux qui souffrent. Parce qu'en bonne santé, on ne sait pas ce qu'est la souffrance. On en reconstitue le souvenir, mais c'est un peu artificiel. Alors devant un malade qui souffre, nous savons très bien que ce n'est pas le moment des grands discours, mais celui d'une présence discrète. Il s'agit alors de manifester un respect qui se fait petit devant le mystère de la personne qui est en train de se bagarrer avec la souffrance, avec la douleur. Dans l'Évangile, un seul personnage réussit à échanger des paroles avec Jésus quand il souffre sur la croix. Ce n'est ni la Vierge Marie, ni Saint Jean qui se taisent. C'est un souffrant comme Jésus, un homme, le bon larron, qui, comme lui, est en train d'agoniser sur la croix. Cela donne à réfléchir. Seuls les souffrants peuvent se comprendre à demi-mot, et il faut toujours être très modeste devant la souffrance de l'autre. Deuxième point, la réaction de la révolte. L'attitude de révolte devant la souffrance est très souvent décrite à travers les personnages de la Bible. Pensons, c'est un exemple, à Job, que ses amis viennent accabler de beaux discours. Songeons au cri de révolte des auteurs des psaumes. « Mais enfin, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas possible !» Elle est d'autant plus forte, cette révolte, que la souffrance survient sur un innocent ou sans raison sur quelqu'un qui avait toute raison d'être heureux. Chers amis, la révolte, c'est par excellence celle du juste souffrant. Cette réaction de révolte est normale, psychologiquement parlant. Elle représente une mobilisation d'une des dimensions les plus importantes de notre vie, celle de l'agressivité. La révolte a un côté médicalement sain. Elle donne du mordant pour se battre. Elle est le sursaut du goût de la vie en nous. Elle est en même temps un appel déguisé qu'il faut savoir reconnaître, appel aux personnes qui seraient éventuellement capables de mettre fin à ma souffrance. Le corps médical, mon entourage, Dieu. C'est pourquoi, devant une personne qui souffre et qui se révolte, il ne faut pas avoir trop vite des paroles calmantes, adoucissantes, lénifiantes, mais d'abord laisser nommer les divers sentiments contradictoires qui habitent des proches vis-à-vis de Dieu doit pouvoir s'exprimer. Nous devons aussi prier pour garder le sens de la mesure, car si l'agressivité peut donner un sein mordant, elle peut aussi se transformer en rancœur, en amertume. Elle peut chercher à faire mal à l'entourage, voire à blasphémer. Ce n'est pas facile de gérer la révolte, mais c'est ici que la contemplation du Christ sur la croix est importante. Voilà un homme, Jésus, qui avait toute raison de se révolter. Or, il arrive à exprimer quelque chose de son dépit, de ses doutes, de son agression intérieure vis-à-vis du Père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en même temps, il est capable d'arriver jusqu'au pardon et de crier « Père, pardonne-leur » c'est-à-dire mes bourreaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La révolte est une expérience où nous sommes acculés à l'humilité. Troisièmement, la régression psychique et la fermeture sur soi. Imaginons des soldats en train de mener une bataille sur le front. Si la bataille tourne en leur défaveur, ils retournent dans leur retranchement. Il en est ainsi de nos psychismes. Quand une personnalité est fortement éprouvée, elle a spontanément tendance à retourner sur ses retranchements passés, c'est-à-dire à essayer de réactiver des stades de son histoire où elle avait davantage la paix, de plaisir, de gratification. Il y a toujours une part de régression spontanée dans la maladie, dans le deuil, dans la souffrance psychique. Les personnes qui souffrent se font tout d'un coup le centre du monde. Nous allons les voir parler sans arrêt d'elles-mêmes, un peu comme un petit enfant aime se faire le centre de sa famille. Nous en voyons d'autres qui régressent vers une relation à Dieu très éthérée, très mystique, mais en dehors du réel. Et puis d'autres régressent comme à l'état d'un bébé qui comble son angoisse en mangeant. Alors il mange, et encore il découvre l'alcool, etc. Certains régressent en oubliant leur souffrance par un surcroît de travail pour éviter de penser. Quelques-uns enfin tombent dans le travers de la jalousie. Alors comment humaniser ces tendances régressives qui nous habitent dans la souffrance? Il faut là encore ne pas vouloir les éliminer trop vite, car elles ont un côté positif, un côté de protection de la personnalité. Le premier réflexe est de nommer les choses et de se reconnaître beaucoup plus complexe que nous le pensions. Toutefois, il faut éviter de s'enfermer là-dedans car nous voyons le côté négatif, évidemment, de ces régressions. Elles sont lourdes pour la personne elle-même et pour son entourage. Il faut savoir exploiter chrétiennement ces réactions de régression devant la souffrance. Tout d'abord, se rappeler, et le pape François l'écrit très bien dans son encyclique ou exhortation apostolique sur la sainteté, se rappeler que la sainteté ne s'identifie pas avec l'équilibre humain. Il est possible de régresser dans des problèmes psychiques importants que nous arrivons mal à dépasser, voire que nous dépasserons jamais, et être un grand saint devant Dieu. Un grand saint, ça veut dire, non pas que nous aurons nos statues sur les autels, mais la sainteté au sens disciple du Christ qui essaie chaque jour d'être fidèle au Christ, pécheur, mais fidèle au Christ. La sainteté, ce n'est pas être normal psychologiquement, si tant est que nous sachions ce qu'est être normal. La sainteté, c'est là où nous sommes, avec ce que nous sommes, tenter d'accueillir Dieu pour progresser en humanité grâce à lui. Ensuite, ces régressions nous permettent de nous rappeler que dans chaque adulte que nous sommes, il y a toujours un enfant qui sommeille. Certes, c'est quelquefois humiliant de constater cela. Il faut faire preuve d'humilité. Ô Seigneur, moi aussi j'ai des connivences avec ce qu'il y a de moins beau dans le monde, et tu m'aimes avec ma complexité. Voilà une occasion formidable de sortir des jugements tout faits sur les gens de notre entourage que nous croyons déséquilibrés. Et puis, ces moments-là sont une excellente occasion de sentir que nous ne pouvons pas vivre sans l'aide des autres. Cela permet parfois de briser des carapaces défensives. Enfin, et surtout, ces régressions constituent un mouvement de centrement sur soi. La contemplation de Jésus sur la croix est alors importante. Jésus avait toutes les raisons de se centrer sur lui-même. Or, l'Évangile nous le présente comme opérant un mouvement de décentrement. Voilà ce qui humanise et rachète dans la croix de Jésus. Voilà ce qui est rédempteur. Mouvement de décentrement où il se tourne vers ses bourreaux, il se tourne vers le bon larron, il se tourne vers la Vierge Marie, il se tourne vers Saint Jean, vers chacun d'entre nous à qui il a laissé la Vierge Marie comme mère et Saint Jean comme apôtre. Quatrièmement, la désespérance. Là aussi, c'est une réaction fréquemment décrite dans la Bible. Le prophète Jérémie finit par maudire le jour où sa mère l'a mise au monde. « Si j'avais pu ne pas naître !» Quelle désespérance que de dire cela. Combien de fois avons-nous entendu cela? J'aurais mieux fait de ne pas exister. J'en veux à mes parents de m'avoir conçu. Une des réactions devant la souffrance est le sentiment d'abandon, de solitude, de gâchis. Tout fiche le camp, tout casse, tout lâche. Alors que faire? Ici, nous sommes très démunis, tant l'amour ne semble plus exister. En premier lieu, il faut avoir du bon sens de la part de ceux qui essaient d'aider ces personnes, du bon sens. Tout d'abord, savoir reconnaître que nous sommes quelquefois devant un problème physique de dépression. Il faut avant toute autre chose recourir à l'assistance des médicaments qui sont une béquille, certes provisoire, mais nécessaire pour retrouver pied. Quand nous sommes devant la vraie dépression, inutile de se bagarrer seulement à coups de spiritualité. Très dangereux, très dangereux. Mais quand bien même nous aurions dépassé la phase purement dépressive, que nous nous serions aidés de médicaments ou d'une psychothérapie, il reste encore le problème de l'angoisse humaine que jamais une solution médicale ne fera disparaître. L'angoisse de se dire « Mais pourquoi suis-je ainsi atteint ?» Dans ces moments-là, christianiser la souffrance, c'est se faire suppliant envers Dieu. Relisons ces psaumes qui disent « Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. » Psaume 35, psaume 41, psaume 67, psaume 70, psaume 134. Ce mot « abîme » est très fort. Dans ces moments de désespérance, il faut avoir le courage, oui, le courage, voire la cesse même, d'exercer sa mémoire sur ce que Dieu a fait pour moi. Car enfin, c'est vrai, je souffre, évidemment. J'éprouve un sentiment d'abandon. Mais rares sont les personnes qui peuvent dire « Tout n'a été qu'échec dans ma vie. » Or, il y a eu aussi des moments de joie, de réussite. Il faut savoir, j'allais dire les exhumer, les regarder. Mais il est vrai que pour un grand nombre de personnes, quand la désespérance est forte, même ce regard n'est plus possible. Il arrive même que le fait de regarder ce qu'il y a de positif dans sa vie enfonce encore un peu plus. C'est pour cela que c'est si difficile. En tout cas, il faut contempler la figure de Jésus qui mène le combat de l'espérance au cœur du sentiment d'abandon. Je le disais, Jésus ne fait pas le malin. Il ne dit pas à ceux qui sont au pied de la croix « Regardez comme je souffre bien ». Il ose dire la vérité et la parole que Saint Paul applique parfaitement à Jésus « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Enfin et surtout, dans ces moments de désespérance, il faut avoir le courage du premier pas. Certes, lorsque l'on désespère, on a rarement ce courage. Il faut donc demander à Dieu d'avoir la force d'aller au-devant de l'autre pour lui dire « Tu sais, je touche le fond ». Cela est très important car il y a une seule façon de croire encore à l'amour quand on désespère, c'est d'expérimenter la présence de quelqu'un qui est auprès de vous humblement et là en train de vous respecter. Quand je désespère, quand l'amour semble loin, la seule façon de croire que l'amour et Dieu existent, c'est d'expérimenter qu'il y a une petite source d'amour pour moi, ici et maintenant, la présence d'un ami. Je peux le dire, il y a quelques semaines, au moment du décès de Jacques Chirac, il y a une interview de son ami Jean-Louis Debré qui a avoué ceci. Jean-Louis Debré qui a visité Chirac toutes les semaines et ça faisait un an et demi que Chirac ne pouvait plus parler. Eh bien, il lui tendait la main, il mettait la main et restait comme ça 2 heures. Voilà. Et puis il repartait. On a tous fait, je pense, cette expérience-là quand quelqu'un ne peut plus tendre la main et rester avec lui. Alors, s'il y a une petite source d'amour, c'est peut-être qu'il y a une grande nappe d'amour qui l'alimente. Comment ne pas souhaiter que chacun d'entre nous puisse, lorsqu'il souffre. Je dis ces mots avec beaucoup de précaution. Puisse prononcer ces merveilleuses paroles de saint Paul dans Romains 8, 31, etc. Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger? Non. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Fin de citation. Chers amis, puisse le Seigneur nous donner le courage pour le combat victorieux de l'espérance. Je vous remercie.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous venez de suivre l'intervention du Père Benoît-Marie Solaberrieta, bénédictin, intervention enregistrée le 16 octobre 2019 à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte, lors de la journée proposée par le service diocésain de la pastorale de la santé.